Mes goûts artistiques ont été construits grâce à mon vécu et à ma personnalité. C'est quelque chose sur lequel je ne complexerai jamais. Et d'ailleurs, je n'ai pas de complexe à avoir. Ce sont ces mots et l'aplomb de Julien qui m'ont interpellée et m'ont fait plaisir à entendre pendant notre échange autour des comédies musicales. Moi qui ai eu tant de mal à assumer mon goût pour ce genre controversé. C'est avec plaisir que je découvre l'histoire d'un autre passionné, un homme, cette fois, qui nous parle sans complexe de sa sensibilité, de son amour pour le chant et les grandes voix qui le touchent, et c'est un plaisir de vous partager son expérience. Très bonne écoute. Bon, ça va?
Ouais, tranquille.
Trop bien, trop bien. Bah écoute, en tout cas, merci de participer au podcast, parce que c'est toi qui es venu vers moi. Et c'est la première fois, en fait, que j'accepte de prendre quelqu'un sur le podcast que je ne connais pas d'avance. Donc, merci pour ton intérêt pour le podcast et de cette proposition, c'est cool.
Bah, surtout que c'est super intéressant de t'écouter parler de ton métier, déjà. Parce que, mine de rien, l'intermittence du spectacle, c'est quelque chose qui est assez fascinant, mine de rien. J'ai été amené, quand j'étais animateur radio, à travailler un peu au contact de ce milieu-là. Et puis bon, j'ai eu l'occasion également de rencontrer quelques artistes, donc forcément, ça me fascine, ça m'intéresse. Et c'est vrai que d'avoir le point de vue de quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, c'est toujours intéressant. Puis bon, en plus, j'ai cru comprendre qu'on avait une passion commune, les comédies musicales. Donc il y avait ça aussi qui m'a attiré vers ton podcast.
Oui, c'est ça. Comédie musicale, ça va vraiment être un sujet récurrent. C'est pas 100% du podcast, mais bon, voilà, c'est une passion qui me prend beaucoup. Donc effectivement, je vais en parler et c'est chouette que tu me proposes aussi de participer. Moi, j'ai hâte de découvrir ton histoire. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le spectacle vivant entre dans la vie des gens et les émotions que ça nous procure, l'impact que ça peut avoir sur nous. Donc, si tu veux te présenter et expliquer comment le spectacle vivant est rentré dans ta vie.
Alors, en fait, j'ai toujours été au contact du spectacle vivant par le biais de mon éducation. Depuis tout petit, en faisant en plus des... Comment dire, en participant au spectacle de fin d'année à l'école, en allant au spectacle avec les parents. J'ai fait du théâtre par le passé. Ma mère a fait du théâtre, mon oncle fait du théâtre, ma sœur fait de la danse, ma nièce fait de la danse. Donc, on est tous un petit peu au contact du spectacle vivant. Et puis bon, aujourd'hui, je chante, et ce depuis plusieurs années maintenant. J'ai fait un concert d'ailleurs avec la MJC de Villeurbanne. Donc j'ai fait un solo, notamment à la fin du spectacle. J'ai fait une chorale également il y a quelques années au collège, quand j'étais en train de passer le brevet. Il y avait, je crois, une centaine, voire plus de personnes dans le self, à la cantine, quoi. C'était impressionnant. En plus, à l'époque de la mue, quand tu dois faire des aigus devant tout le monde... Et voilà. Alors après, j'ai la capacité à avoir une voix qui va assez haut, donc c'était pas trop un problème malgré tout.
Ouais, donc en tout cas, t'as baigné là-dedans.
C'est ça.
Avec ta famille.
Avec ma famille. C'est une question d'éducation. Je pense qu'à un moment donné, l'art s'invite dans nos vies d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est aussi lié à l'éducation qu'on reçoit. Il y a des gens qui vont être plus attirés par la peinture, d'autres par l'écriture, sans forcément prendre la lumière à dire de chanter ou de faire du théâtre ou quoi que ce soit, mais plus par l'art de l'ombre, entre guillemets. Moi, j'ai fait du théâtre, c'est le chant. Pour moi, j'ai presque envie de dire la peinture ou l'écriture sont des arts nobles, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai plus de plaisir à aller voir un spectacle qu'à dessiner. Pour moi, il y a quelque chose de plus concret. Après, c'est ma vision des choses. Hein.
Ouais.
Mais pour moi, il y a quelque chose de plus concret parce que tu vas voir le résultat d'un long processus de travail et tu le vois de tes propres yeux. Après, tu peux te faire ton impression. Et c'est ce que je trouve bien avec l'art, c'est que tu peux avoir ton impression, discuter avec les autres de l'impression que tu peux avoir sur tel ou tel spectacle. On a eu l'occasion de s'en apercevoir avec Starmania, notamment. Ou avec d'autres spectacles musicaux. Pour moi, c'est le charme de l'art vivant. C'est que ça vit sur scène et ça vit en dehors de la scène.
Ouais, totalement.
Après, ça crée des contacts, ça crée des amitiés, des amours, ça crée pas mal de choses. Ça a un grand pouvoir. On s'imagine pas combien l'art vivant peut avoir de pouvoir dans nos vies.
C'est justement vraiment ça qui m'intéresse dans le podcast et de le fait de découvrir d'autres histoires, qu'est-ce que ça implique chez d'autres gens. Enfin, là, par exemple, je viens de faire un enregistrement avec quelqu'un où ça lui a créé une vocation, par exemple, tu vois. Et moi, c'est mon cas aussi. Enfin, juste, une passion va t'emmener vers plein de choses différentes. Et comme tu dis, ça peut être aussi voilà, des amitiés. Et nous, oui, c'est vrai que notamment, on avait parlé ensemble de Starmania, donc voilà, ça nous avait fait aussi ben voilà, se raconter nos émotions, nos impressions. D'ailleurs, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la comédie musicale? Enfin, comment tu l'as rencontrée et qu'est-ce qui fait que c'est ce genre-là en particulier qui te touche, toi?
Bah, ayant fait du théâtre et ayant aimant la musique, j'ai apprécié le fait de voir un genre qui englobe tout, parce que c'est pas seulement du chant, c'est pas seulement de la danse, c'est un mélange de tout. Aujourd'hui, il y a même le théâtre, il y a d'autres disciplines qui s'incorporent avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation. Il y a plein de phénomènes qui s'invitent dans les comédies musicales. Aujourd'hui, c'est plus les comédies musicales seulement comme on voyait à l'époque de Roméo et Juliette. Et même les reboots, comme on voit de plus en plus aujourd'hui, ils ont des choses en plus. Tu vois, par exemple, dans Robin des Bois, avec Matt Pokora, il y avait des choses qu'on ne voyait pas forcément 15 ans auparavant. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'amalgame, justement, entre la chorégraphie, le théâtre et le chant. C'est ce qui définit de base la comédie musicale et les jeux de rôle, l'incorporation des chansons à travers une scénographie. Ça me fascine. Parce que j'ai pas l'impression, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, j'ai pas l'impression qu'une chanson de comédie musicale soit une chanson comme une autre. Je pense pas qu'elle soit écrite comme n'importe quelle autre chanson. Quand tu vois le texte de la chanson, tu te dis comment elle figure dans le spectacle, dans quel contexte. On sait que quand une comédie musicale arrive, on sait que tel single va arriver en premier, comme Être à la hauteur avec Le Roi Soleil, par exemple. Et quand tu l'écoutes la première fois, tu te dis, qu'est-ce que ça va donner dans le spectacle? Moi, à chaque fois, je me suis fait la même réflexion, c'est qu'est-ce que ça va donner dans le spectacle? Tant que j'ai pas visualisé la place de la chanson, je me dis, bon.
Ouais.
À chaque fois, j'ai compris après le poids de la chanson, une fois que je l'ai vue dans le spectacle, si tu veux. Mais même encore avec Starmania, on connaît tous les chansons. Mais moi, j'étais trop jeune à l'époque où Starmania est sorti la première fois. J'étais pas né, même, carrément. Et là, quand j'ai vu le spectacle au printemps dernier, bah, j'étais content de pouvoir contextualiser, quand on arrive en ville, de pouvoir contextualiser Ziggy, de pouvoir contextualiser également SOS d'Intérieur en détresse, que je pensais pas voir dans un tableau aussi trash, honnêtement. Parce que la fin, je vais pas spoiler, mais la fin du reboot est vraiment... nous rappelle beaucoup de choses de la réalité. C'est pour dire le pouvoir de la comédie musicale. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est justement un genre qui donne du poids aux chansons, qui donne du poids aux mots. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir des nouveaux artistes, de diversifier un peu les genres, de ne pas tout le temps écouter les mêmes choses et de suivre des nouvelles histoires aussi. Bon, je connaissais par exemple Caroline Costa quand elle a fait Robin des Bois, mais
Ouais.
l'écouter chanter, j'ai dit oui. La façon dont elle chante cette chanson, j'ai pleuré la première fois. Je suis quelqu'un de très sensible, mais pas au point de pleurer tout le temps. Mais là, cette fois-là, j'ai pleuré. Généralement, quand une artiste, parce que c'est surtout les femmes qui me font pleurer, les chanteuses, quand une artiste me fait pleurer, ça me donne envie de la suivre au-delà de la sensation que j'ai eue au moment T, quoi. Et bon, Caroline, j'ai jamais cessé de la suivre depuis, mais bon, je la connaissais déjà depuis son premier album et j'avais regardé ses vidéos à Incroyable Talent également. J'avais déjà pleuré. Donc, voilà, elle a une voix exceptionnelle, cette fille.
First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide. Deep inside your mind.
C'est la force de l'interprétation dans une comédie musicale parce qu'ils peuvent chanter des chansons dans leur carrière solo ou dans des émissions. Et dans un spectacle, dans une comédie musicale, ils interprètent un personnage. Donc c'est
Exactement.
encore d'autres facettes qu'on peut découvrir de ces artistes-là quand ils sont dans la peau de quelqu'un d'autre, quoi.
Là, l'autre jour, je me suis amusé à regarder Notre-Dame de Paris, l'original. avec Patrick Fiori, Garou, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Julie Zenati et autres. J'ai été époustouflé par Patrick Fiori. On le connaît aujourd'hui, on n'est pas surpris, mais à l'époque, le voir chanter déjà à l'époque avec la maîtrise vocale qu'il avait, c'était hallucinant. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime chanter ses chansons. Alors, je m'attarde sur Fiori, mais voilà, c'est pour dire que ça accrédite ce que tu disais, c'est justement ça permet de découvrir des nouveaux artistes de découvrir des personnalités qu'on n'imaginait pas pouvoir découvrir un jour, quoi. Emmanuel Moir aussi, c'est la même chose. Il s'avère que lui, il a une histoire un peu particulière. Au départ, quand je le voyais dans son rôle de Louis XIV, je me suis laissé prendre au jeu du rôle. Ça aussi, c'est le pouvoir de la comédie musicale, j'allais dire, de nous tromper, entre guillemets, mais dans le bon sens, dans le bon sens du terme, de nous donner une image de la personne. On voit pas des artistes, on voit des personnages. La comédie musicale a un pouvoir, c'est de nous plonger dans un monde et de nous plonger dans l'univers qu'elle traite, qu'elle aborde. Et ça, c'est un pouvoir exceptionnel. Moi, c'est ce que j'adore dans la comédie musicale, c'est qu'on est coupé du monde quelque part pour mieux se fondre dans l'histoire.
Ouais. Et ça, tu penses que c'est aussi le pouvoir de la musique et ouais, des chansons qui fait que c'est plus fort pour toi d'aller voir une comédie musicale
Oui.
qu'une pièce, par exemple, ou que le chant, la qualité vocale des artistes, c'est ce qui te touche le plus en allant voir une comédie
Ah,
musicale.
clairement. Clairement. Puis je suis quelqu'un, déjà personnellement, j'ai une voix plutôt puissante. Je suis assez attiré par les chanteurs et les chanteuses qui ont une voix puissante. Donc, et la comédie musicale, elle permet ça justement. Ma prof de chant là, récemment m'a dit, mais t'as carrément la voix pour faire des comédies musicales. Bon, oui, d'accord. Mais voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis la comédie musicale, déjà, il faut pouvoir se faire repérer pour quelque chose comme ça. Et puis, il faut savoir danser. Personnellement, non.
Après, oui, c'est du travail, c'est des castings. Après, y a beaucoup de sortes de comédies musicales aujourd'hui parce que souvent là, on parle des grosses productions, voilà, du Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris et compagnie. Mais tu as aussi des petits spectacles, des comédies musicales, elles sont intitulées comédies musicales et pour autant, il n'y a que trois ou quatre interprètes sur scène, il n'y a pas de danseurs et tout ça. En fait, maintenant, il y a plein de sortes de comédies musicales. Enfin, tu vois, faut pas que tu te fermes des portes en disant.
Oui, non, bah après, voilà, mais je dis ça aussi parce que c'est pas forcément aujourd'hui mon objectif particulier. Si j'intègre une troupe pour faire ça, mais ça sera simplement à titre de passion, ça sera très bien. J'ai eu l'occasion, j'ai passé une audition il y a quelques temps. Mes disponibilités suite à mes
D'accord.
disponibilités n'allaient pas parce que j'ai un planning qui est particulièrement flexible. Je pouvais pas assurer à 100% d'être à l'heure à 19h30, donc c'était pas possible.
Ouais. Non, mais je crois que c'est un peu le rêve de tous les passionnés de comédie musicale
C'est
d'interpréter
sûr.
ou de chanter dans un spectacle. Si au moins on peut le faire en tant que passionné ou dans une petite
C'est
troupe
déjà
amateur,
bien.
déjà c'est génial. Moi j'ai chanté dans une pièce d'une compagnie amateur, rien que ça, c'est génial. Hein. C'est une expérience comme une autre, et comme tu dis, c'est pas pour autant qu'on a envie d'en faire notre vie. Enfin, voilà. Enfin, les artistes de comédie musicale, ils sont vraiment. Ils vivent de ça, mais pas forcément tous, je pense. C'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, c'est
C'est
un
sûr.
travail de longue haleine, quoi. Et qu'est-ce que tu as vu, toi, comme comédie musicale? C'était Roméo et Juliette, ta première, c'est ça?
La première, je crois que c'était Roméo et Juliette, oui, effectivement. J'ai vu un reboot de Notre-Dame de Paris il y a quelques temps, je crois que je l'ai vu quelques mois après. Sinon, ouais, c'était Roméo et Juliette. J'étais avec mes parents au Palais des Congrès. On était loin de la scène, mais c'était un beau moment. J'ai même vu Essaye après le spectacle.
Oui, qui joue Paris, c'est ça?
C'est ça. Le spectacle, ouais, c'était un super souvenir, franchement.
Ouais.
Je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines. Et je me souviens que j'avais vu également un prime sur TF1 à l'époque, animé par Jean-Pierre Foucault, dédié à Roméo et Juliette, où ils avaient refait les constitutions des scènes clés du spectacle avec les chansons. Tu voyais tous les artistes. Moi, je me souviens de cette émission, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours en tête.
Je précise que ce soir, on va découvrir au total, je crois, 7 ou 8 chansons. En réalité, dans le spectacle,
il y en a une quarantaine.
Il y
oui,
en a
oui,
une quarantaine.
Vous voyez pas évidemment le spectacle, vous voyez certains des moments les plus forts.
La haine, puisque c'est la chanson qu'on va écouter maintenant. Mise en situation, c'est les deux mères, c'est ça?
C'est la mère de Roméo et la mère de Juliette qui arrivent sur une des énièmes batailles entre les Montaigu et les Capulet, ouais. Et qui viennent lancer un cri de révolte contre la folie de leurs enfants et de leur mari.
Et quel cri? Le voici.
J'ai beaucoup regardé une émission, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était une émission qui était consacrée à la musique. Là, elle était consacrée à Notre-Dame de Paris, mais je ne sais plus combien d'années après, et c'était tout le cast quasiment original qui reprenait les chansons de Notre-Dame de Paris. Ils sont tous, mais soit dans une euphorie de se revoir, soit dans une émotion. Voilà, Hélène Segarra ne fait que de pleurer à chaque chanson quasiment, Gilles Zanetti aussi. Enfin, ils sont tous. Plus vieux et ils se remettent voilà dans ce cocon tous ensemble où réinterprètent les chansons. Faudrait que je retrouve cette émission, mais je l'ai regardée des dizaines de fois parce que c'est génial.
Parce que tu le racontes dans ton livre, Julie, Luc Plamondon, il cherchait un beau gosse blond genre Ikea, pour pas citer de marque.
Ouais.
C'est ça.
Tout Patrick.
Et c'est tout Patrick, voilà.
Ouais. C'est tout Patrick.
Suédois. En plus,
Suédois.
Je parle le flux que blu.
Je parle le flux que blu.
Comment tu as emporté ce rôle où effectivement, beau comme le soleil.
Juste avec sa voix, quoi.
Juste avec sa voix.
Et voilà.
Et 42 fièvres avec aussi. Parce que j'ai chanté, j'étais malade en fait. C'est vrai. Quand j'ai auditionné, je sais pas s'ils le savent d'ailleurs. J'avais un vrai 42 fièvres, pas un 39, un vrai 40. Et j'ai été devant Luc et Richard.
Oui, allô?
Hélène Segarra.
Hélène Segarra.
Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer? Mes rêves de petite fille cousus de fil en aiguille, je les ai jetés au loup. Détrompe-toi, car je suis aussi blanche qu'une brebis qui se roule dans la boue. Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà se fait plus dur, je te mets au pied du mur.
Mais d'ailleurs, le Roi Soleil, ils voulaient faire un petit rassemblement comme ça.
Ah ouais?
Ils en avaient parlé, mais je sais pas si ça va se faire.
Ah, ce serait chouette. Mais juste un concert comme ça, reprendre les chansons.
C'est ça.
Ça serait chouette. Hein.
Et puis après, c'est compliqué parce qu'avec les carrières respectives d'Emmanuel Moir et Christophe Maé qui se sont quand même bien envolés depuis. Puis t'as Merwan Rim qui fait la tournée des comédies musicales avec ses partenaires Damien Sargue, Priscilla et Jenny Lynn. C'est pas toujours évident de jongler, mais Le Roi Soleil, justement, c'est ma plus grande frustration parce que même si je connais le spectacle, je l'ai vu plusieurs fois en DVD, je l'ai jamais vu en physique. Alors que ça reste mon spectacle favori.
Ah ouais?
Ouais. D'abord, j'aime beaucoup l'histoire de France en général. Et je sais pas pourquoi, Louis XIV, c'est un roi qui me. Enfin, l'histoire du roi me fascine. Et l'histoire de la monarchie en elle-même m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que Louis XIV, bon, quand j'ai compris qu'il avait eu une influence sur l'histoire de France, qu'il avait eu beaucoup de pouvoir par rapport à l'État. L'État, c'est moi, il le disait lui-même. Je me suis dit, il faut absolument que je m'intéresse à son parcours. Tout ce qui touche à Louis XIV, que ce soit des séquences de secrets d'histoire, que ce soit des films, que ce soit des comédies musicales comme Le Roi Soleil, tout m'attire. Là, c'est vrai que c'était l'occasion. En plus, le cast est quand même très très compétent, très très intéressant. Il y a des belles voix. Je suis assez frustré de ne pas avoir vu Anne-Laure Gerbal éclore davantage, parce qu'elle a une très belle voix. Moi, l'écouter chanter, c'était un bonheur.
Ouais, bah Anne-Laure, elle a tenté hein, de faire une carrière solo. Elle a fait pas mal de concerts sous le nom de Angie.
Je m'en souviens.
Moi, j'aimais beaucoup son univers. Je l'avais vu en concert et je trouvais ça vraiment bien. Ouais.
Mais après, Merwan Rim, qui m'a toujours semblé avoir eu une voix... je l'ai vu lors des comédies musicales. Franchement, il en impose sur scène. Et après, bon, c'est Christophe Maé. Bon, le rôle qu'il a, c'est juste incroyable, quoi. Pour un mec qui n'est pas du tout dans le trip des comédies musicales, qui n'a pas du tout cet univers, qui aime les femmes, faut dire ce qui est, donc qui est totalement aux antipodes de son personnage, qui fait le pitre sur scène, qui embrasse des hommes. Bah, franchement, il le gère parfaitement. Après, je me souviens, dans le DVD, il y a un bonus où ils sont en train de faire la présentation des artistes, où il dit « Moi, j'incarne le rôle de monsieur, c'est un mec qui est fou. Bah, » Il a tout résumé, quoi. Quand tu le vois incarner son personnage sur scène, tu te dis « Mais il est complètement barré. »
C'est vrai que moi, j'étais très fan de Christophe et j'étais habituée à le voir... Mais même en dehors de la scène, en fait, même dans tous les interviews, les making-of, il a vraiment un grain de folie, quoi. Enfin, il était tout le temps à dire des conneries en coulisses, à rien prendre au sérieux, en fait. Enfin, c'est vraiment le mec, tu sais pas comment il a fait pour entrer dans une comédie musicale, parce qu'il a rien de sérieux. Et ensuite, bah, quand il a explosé en solo, et qu'on le voyait à la télé, mais hyper voilà, carré, hyper droit, quoi. Il n'y avait plus ce truc de son personnage, quoi. Je me dis, mais c'est fou, en fait, parce que... Enfin, limite, je le reconnaissais pas, quoi. Enfin, je me dis, en fait, quand t'es en solo, tu montres plus ta personnalité. Enfin, t'es obligé d'avoir une image plutôt lisse et compagnie, quoi. Donc, je pense que c'est sympa aussi d'avoir eu Christophe Maé qui a pu apporter ce grain de folie dans les spectacles. Et alors, peut-être que c'était pas de lui, son personnage lui-même. Mais voilà, je pense qu'Amel Wailly, etc., il voulait ce grain de folie. Mais je trouve qu'ils ont été précurseurs dans le sens où tous les autres spectacles derrière, ils ont toujours essayé de trouver ce moment de légèreté dans les spectacles où il faut qu'il y ait un personnage qui ait un peu cette folie qui avait cartonné dans Le Roi Soleil. Enfin, c'est la deuxième tournée, je pense qu'elle a cartonné aussi parce que les gens avaient envie de revoir ce personnage-là qui donnait énormément de légèreté au spectacle et beaucoup d'euphorie dans la salle. Enfin, c'était un truc de fou, hein, monsieur. Mais du coup... Tu l'as pas vu sur scène, mais j'espère qu'un jour, ce serait génial que Le Roi Soleil soit remonté et que tu puisses assister à ça, parce que vraiment, dans la salle, les arrivées de monsieur, c'était... Ça créait vraiment une excitation, quoi, que tu vois pas vraiment dans une comédie musicale, normalement, tu vois.
C'est ça. Bah, le DVD, je me souviens, quand j'ai vu le spectacle en DVD, il y avait quand même, on sentait qu'il y avait un certain attachement du public pour ce personnage.
Ouais.
Puis bon... La façon dont tu le vois arriver en train de faire coucou tout le monde, comme ça, ben forcément, ça crée aussi un peu un effet de foule. C'est un peu le ministre des réjouissances de Louis XIV, donc forcément, il faut qu'il crée, faut créer une atmosphère autour. Mais c'est vrai que comme ça, c'est assez impressionnant. Tu disais que c'est assez unique dans une comédie musicale d'avoir un personnage en particulier. Je parlais de Roméo et Juliette. T'avais Mercutio qui pouvait un peu faire office de trublion, mais ça se voyait pas trop avec Philippe Davila. En revanche, quand ils ont fait le reboot en 2010 avec John dans le rôle de Mercutio, c'était totalement différent.
Tout à fait.
Et on est un peu dans cette veine-là aussi.
Ouais, mais du coup, c'est après Le Roi Soleil. Mais c'est vrai que John avait vraiment une folie. Oui. Carrément. Mais tu vois, même après, dans Mozart, 1789, voilà, avec Amindy, etc. Enfin, moi, c'est mon impression qu'ils ont voulu recréer ça dans la suite des spectacles, quoi.
Bah, Mozart avec Michelangelo Loconte, qui est juste impressionnant.
Ouais, c'est vrai qu'avec Mozart, ils ont même carrément essayé de mettre le mec le plus fou, que ce soit le personnage principal, quoi. Enfin,
Et je pense que déjà, en plus, quand on connaît, j'avais vu un biopic il y a quelques années en cours de musique sur Mozart. on voyait bien que c'était quelqu'un d'excentrique. Donc,
pour son
c'est, en
époque,
plus, il
ouais.
avait un rire complètement démentiel. Donc, bon. Et, sinon, hormis tous ceux qu'on vient de citer, les 10 commandements, forcément, que j'ai vu non seulement en spectacle DVD, enfin en cassette plus exactement, mais aussi en physique.
Ah ouais,
d'ailleurs, pour la petite anecdote, au retour de ce spectacle qu'on avait vu à Lyon, parce qu'il y avait une fille du groupe de KT qui était fan de Daniel Lévy, et à son âme, au passage. Et donc, elle nous en avait parlé, elle disait « ça peut être intéressant d'aller voir le spectacle ». Et on s'est fait une sortie à Lyon pour aller voir le spectacle. Et au retour dans le bus, je me suis fait draguer. Donc ça s'est terminé par une liaison.
D'accord. Donc grâce aux comédies musicales.
C'est ça. Une petite histoire particulière qui me lie à cette comédie musicale que je pense aller voir d'ailleurs, parce qu'il va y avoir le reboot là, l'année prochaine. J'ai déjà réservé ma place pour Notre-Dame de Paris. Et puis... Bon, Robin des Bois aussi, que je suis allé voir en 2014 à Lyon. C'était surtout, j'y allais surtout pour Caroline Costa, hein, clairement. J'y allais pas pour Matt Pokora. Mais après, honnêtement, je vais être très objectif et avis à toutes les personnes qui sont fans de Matt Pokora. Il avait largement sa place dans le spectacle. Il avait largement sa place.
Mm-hmm.
Il était très crédible. C'était pas du tout son univers à la base, mais il était super crédible. En plus, je pense que la musique le légitimait. La façon dont les chansons ont été composées et amenées, écrites, le légitimait. Il avait un charisme, il avait une aura, il n'y avait rien à dire. En plus, j'étais au second rang, je crois. Donc, je peux parfaitement dire ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un de très crédible sur scène. Caroline, bon, dans son rôle de Bédélia, qui est assez secondaire au final dans le spectacle, elle avait apporté quelque chose quand même. Cette fille a une puissance émotionnelle assez rare. Moi, souvent... Je m'amuse à dire qu'elle a un diamant dans la gorge qui est couvert par un voile de soie. Le diamant, c'est vraiment quand elle part dans les hauteurs, on se prend 1000 carats dans la gueule, facile. Et par contre, quand elle chante tout en douceur, on sent qu'il y a quelque chose derrière, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. C'est vraiment, quand elle chante tout en bas, c'est vraiment tout doux. Donc c'est pour ça que je fais cette métaphore, parce que c'est... qui est propre à moi, hein. Je ne l'ai jamais entendu ailleurs, hein. Mais cette fille est assez impressionnante.
Ouais, en tout cas, c'est cette artiste qui te touche particulièrement.
Ouais, et puis bon, après, j'ai eu un gros coup de cœur pour Cécilia Cara il y a quelques années aussi, et je l'ai rencontrée lors des comédies musicales, elle est juste touchante. Après, au niveau des autres comédies musicales, bah, j'ai vu Starmania récemment, donc là, on en a très bien parlé. Toi, t'en as pensé quoi, exactement?
Le Starmania?
Ouais.
J'en ai pensé tellement de choses que je suis en train d'en écrire un épisode de podcast entier, tu vois.
Ah oui, d'accord.
J'ai découvert Starmania, vraiment l'œuvre complète, au moment des confinements, je crois, où j'avais trouvé un intégral de Starmania. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire, en fait. Où j'étais... Ah bon, mais il fait ça, ce personnage, mais... Ah bon, il fait ça, ce personnage? J'étais tout le temps comme ça, à me dire, mais c'est quoi cette histoire, en fait? C'est ouf. Bon, comme tu disais, on connaît toutes les chansons de Starmania, mais on connaissait pas l'histoire, et donc j'étais un peu sous le choc, et puis je comprenais pas tout, parce que j'écoutais le spectacle en faisant autre chose, je comprenais pas tout. Mais j'avais compris quand même de la gravité de l'histoire, et du fait qu'il y ait des personnages qui retournent leur veste, par exemple. Du coup, quand j'ai vu l'adaptation de Thomas Joly, où j'ai vraiment pu voir dans sa globalité... De quoi ça parle Starmania, je me suis pris juste une énorme claque, en fait. Enfin,
on est d'accord.
Parce que ça nous parle tellement, en fait. Ça nous parle tellement de ce qu'on vit actuellement. Et en plus, on en a déjà parlé tous les deux en message privé. Moi, ça m'a touché à des endroits. Toi, ça t'a touché à d'autres endroits. Et je trouve ça génial, le pouvoir de Starmania, où chaque personne peut s'identifier à des bribes d'histoire et à nous rappeler, à vraiment à nous ancrer dans le réel, en fait. C'est ça, je pense, le pouvoir de Starmania, c'est que, bah voilà, d'habitude, les comédies musicales, c'est plutôt...
Une fiction.
Ouais, ça t'emmène dans... Ça te fait oublier un peu ta vie, en fait. Enfin, et là, clairement, non. Starmania, ça fait penser à notre vie.
C'est sûr. Bah, Michel Berger était quand même sacrément visionnaire, et c'est
ouais, totalement.
Presque effrayant
ouais.
De voir à quel point il l'était.
Ouais, Ouais, et Luc Plamondon aussi qui a écrit le livret. Ouais, ouais, totalement. Justement, je suis en train de travailler dessus et en fait, je suis en train de me rendre compte que en fait, c'était déjà comme ça en 1979. Et c'est ça qui est encore plus effrayant, parce qu'en fait, ils ont juste raconté leur monde, leur société, et de se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, c'est la même chose.
Voire pire.
Ouais, voire pire. Et c'est vrai qu'il y a des choses dans le spectacle qui se passent où c'est vraiment étrange, parce que ça s'est passé quelques années après, politiquement, voilà, le terrorisme.
C'est ça. On est en plus, toi et moi, à peu près de la même génération. On a vu... Il y a quelques années, il y a 10-15 ans, ce qui a provoqué le terrorisme dans notre pays, dans notre continent, dans notre monde, plus largement. Mmh. Et ça fait peur, quoi. Quand on voit notamment certaines scènes, on se dit, on est en plein 13 novembre 2015. Mmh. Ça fait très peur.
Mmh. Après, si tu veux en parler, on peut... Tu peux dire les scènes, tant pis pour le spoil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui aiment Starmania et qui ont déjà vu Starmania.
Oui.
Et si toi tu veux dire en tout cas ce qui t'a touché dans ce spectacle, vas-y, moi je vais en parler tellement largement, je pense, dans un autre épisode. Ça m'obsède tellement Starmania qu'il faut que je lâche. Donc je vais en parler, mais toi là c'est le moment où si tu as envie d'en parler, vas-y.
Bah, comme on disait, alors c'est un paramètre que tu as évoqué que j'avais pas forcément mesuré parce que je connaissais pas forcément le contexte à l'époque. J'ai pas fait les recherches aussi pour ça, mais tu disais que la société il y a 40 ans était à peu près la même qu'aujourd'hui, si ce n'est peut-être à quelque chose près que la nôtre est peut-être encore pire que l'époque. Mais par contre. Moi, quand j'ai vu le spectacle, je me suis toujours référencé à ce qu'on connaît de nous aujourd'hui.
Mmh.
Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'avais pris une grosse claque dans la figure. L'effet boomerang, clairement. L'effet boomerang pour tout citoyen moderne qui se respecte. Pas forcément pour moi, pas forcément pour toi. Mais disons que pour tout citoyen qui se respecte, on est dans une société... où, mine de rien, on ne fait pas tout bien. Et même quand on ne fait pas rien de mal, on ne fait pas tout bien non plus. Et il y a des choses qu'on se rend compte qu'on est en train de tout prendre dans la figure parce que ça dépeint une société mercantile, une société violente, une société orientée vers le business. Et quand je dis business, ce n'est pas forcément au niveau économique, mais business à tous les niveaux. On est dans une société qui est exactement celle qui est décrite dans le spectacle. Et moi, là-dessus, j'ai trouvé c'est super violent, c'est intense. Déjà, dès les premières scènes, quand on voit tous les danseurs qui courent à travers la scène, tu te dis, oh là, mais où je suis arrivé là. Déjà, là, dès les premières scènes, dès les premières secondes, je me suis dit, ok, on va en prendre plein la vue. C'est quelque chose d'assez incroyable. En plus, les couleurs, les lumières sont là vraiment pour te frapper. C'est violet, noir, c'est sombre. Les lumières, c'est des lumières comme on voit la nuit. Surtout quand tu es sur la route à 23h, quand il pleut, tu vois les lumières qui t'aveuglent. Ça fait exactement le même effet. C'est vraiment violent, vraiment choquant. Et puis, tu vois aussi des choses que tu ne voyais peut-être pas forcément dans la société à l'époque, mais que tu vois encore plus aujourd'hui. Et avec l'ère des réseaux sociaux, ça ne fait qu'empirer la situation. Et ça, je pense que les réseaux sociaux, en ce sens, décuplent la violence de certains phénomènes. Je pense notamment à la sexualité qui est largement abordée dans le spectacle. Que ce soit l'homosexualité de Ziggy, que ce soit... la neutralité de Marie-Jeanne, on ne sait pas trop où elle se situe d'ailleurs, mais avec le choix de l'acteur qui incarne Marie-Jeanne, qui est un homme, mais non binaire, tu te dis, ouais, le choix est incroyablement cohérent, j'ai trouvé, par rapport à la place de Marie-Jeanne dans le spectacle. Et d'ailleurs, Marie-Jeanne, c'est un personnage qui m'a marqué, justement par son côté caractère, son côté narrateur omniscient, qui se mêle pas de grand chose, mais qui est témoin de tout, qui observe tout et qui sait tout. J'ai été estomaqué par le talent de l'acteur qui l'incarne. Parce que, en plus, non seulement son talent, non seulement son jeu de scène, mais sa voix aussi, qui a, c'est pas une voix d'homme, hein, clairement, c'est quand on l'écoute, on a l'impression que c'est une femme qui chante. En plus, c'est une voix très pure, c'est vraiment très aigu, cristallin. Il n'y a pas de grave qui pourrait induire en erreur, comme dans certaines émissions, on voit notamment dans des auditions à l'aveugle. T'as des voix, tu sais jamais si c'est un homme ou une femme avant que le flou ne s'enlève. Là, on croyait clairement que c'était une femme. Mmh. Et quand on regarde le programme du spectacle, on se rend compte que non, c'est un homme, mais qui n'a pas aujourd'hui, qui n'a pas de genre. Mmh. Qui ne se définit pas comme genré, en tout cas.
Ouais, ouais, tout à fait.
Le choix de lui attribuer le rôle de Marie-Jeanne n'était pas anodin. Ou en tout cas, si c'était simplement lié à son talent, franchement, le choix est excellent. Et après, on voit dans certains autres personnages, comme les personnages de Zéro Janvier, ou les deux rivaux politiques, pardon, ou Johnny Roquefort et Sadia, mm-hmm. Qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Sadia, j'ai été presque choqué.
Ah ouais?
Parce que je ne m'attendais pas à une telle violence. Mm. Je m'attendais plus à de la violence chez Johnny Roquefort.
Ouais.
Mais on a l'impression que c'est elle qui porte la culotte, en fait.
Ah bah, totalement.
Elle a un pouvoir, un charisme, cette fille. Et en plus, non seulement elle est violente, mais elle est séduisante. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'elle a tout pour elle. Sauf la violence, bien sûr, mais sinon, elle a tout pour elle.
Ouais, double tranchant.
C'est ça. Donc, moi, là-dessus, franchement, j'ai trouvé que le casting était très cohérent. Les artistes sont talentueux. Il donne corps à ce spectacle comme à la mesure de l'évolution de la société d'aujourd'hui. C'est ce qui fait très peur. Au final, je vais le dire hein, quand même, mais la scène de SOS Intérieur en détresse, c'est surtout la fin de la chanson en fait, qui m'a marqué. Mmh. Où t'as vraiment l'impression de revivre. Je parlais du 13 novembre 2015, t'as vraiment l'impression de revivre ce que t'as vécu à l'époque, quoi. Mmh. Et je n'imaginais pas cette fin-là.
Ouais, moi non plus. Quand il y a eu le SOS, j'avais oublié, en fait, ce qui se passait autour.
C'est ça, moi aussi.
Le contexte, ouais, ouais. Mm.
Je savais que c'était par rapport à un sentiment amoureux qui était perdu, mais je pensais pas que ça aurait cette configuration-là.
Mm-hmm. Ouais, et puis dans l'histoire du spectacle, le SOS, il a pas toujours été placé là.
Non, non plus.
Et à partir du moment où ils l'ont mis à la fin, ça a trouvé tout à fait son endroit et son sens, en fait. Enfin...
C'est ça. Bah, c'est fin de l'histoire, quoi. Mmh. Et je trouve que ça... Il y a aussi un point important, c'est que, mine de rien, on vient de dire fin de l'histoire. Souvent, dans les comédies musicales, on peut imaginer que les histoires se finissent bien. Bah, là, ça se finit pas bien du tout.
Ouais.
Et on pourrait un peu faire écho à une chanson qui n'a aucun rapport, mais d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Donc c'est très très violent du début à la fin.
Ouais, totalement.
Mais hyper touchant. Et franchement, si les gens qui écouteront ce podcast veulent avoir des émotions fortes, c'est là qu'il faut aller.
Ouais, moi je sais pas comment me placer par rapport à Starmania, parce qu'à la fois j'ai envie que... Des fois j'ai envie d'avoir un excès de folie et de prendre 20 billets et de les offrir à tout le monde, enfin à tous mes proches. J'ai envie que chaque personne voit ce spectacle. Mmh. Et en même temps, je me dis mais c'est tellement violent, et toi, est-ce qu'il faut pas que je choisisse quand même telle personne, peut-être qu'elle va pas aimer, enfin tu vois ouais. Parce que c'est pas du... Enfin, là, Starmania, pour moi, c'est pas du divertissement. Enfin,
je suis d'accord.
C'est tellement plus. Enfin, ça te remet dans ta position, dans ta société. Enfin...
Ça nous met face à nos responsabilités. Ça nous... j'allais dire, ça nous ouvre les yeux. C'est un peu ça.
Ouais. Après, c'est pas que de la violence non plus. Il y a aussi tellement d'ingéniosité. Les chansons, voilà, c'est tellement un plaisir de réentendre les chansons, de connaître l'histoire de Starmania. Mais Tu ressors pas avec la banane en disant oh, bah j'ai passé un super moment, maintenant on va au resto. Enfin, tu repars, t'es waouh, enfin.
T'es sonné.
C'est pas, ouais, c'est pas comme quand tu sors. Bah même Résis par exemple, pour faire un pont avec un autre spectacle. Qui, enfin, moi, Starmania m'a beaucoup fait penser à Résist, mais du coup, je pense que c'est Résist qui s'est imprégné de Starmania. Enfin,
je pense.
Voilà, Résist, t'as quand même, même si l'histoire, elle est pas toute rose et qu'il y a aussi des trucs durs qui se passent dans Résist, et donc ça, je pense que c'est. Ben voilà, c'est parce que France Gall, elle a vécu Starmania, donc elle sait aussi qu'un spectacle peut faire vivre aussi ce genre d'émotion. Mais voilà, quand tu ressors, t'es dans un état. Waouh, qu'est-ce que j'ai vu, quoi. Enfin, là, le spectacle, c'est. Voilà, c'est comme quand tu ressors d'une comédie musicale, quoi. Et Starmania, ça fait pas cet effet, quoi.
Résiste, je suis allé le voir à Clermont. Alors bon, déjà, mes parents adorent France Gall. Mon père est un fan inconditionnel de France Gall. Je suis allé voir avec eux. Moi, j'aime beaucoup France Gall parce que, et Michel Berger, parce que forcément, j'ai écouté leur musique durant ma jeunesse. Et même sans l'influence de mes parents, j'aime leurs chansons, j'aime les chanter. Dans ce spectacle, là, je trouve que c'est une performance de mettre un répertoire déjà établi dans un spectacle comme celui-ci. Parce qu'il faut trouver les histoires autour.
Ouais.
Et on parlait de contexte de chanson au début tout à l'heure, mais là, c'est vraiment un coup de génie.
Ouais.
Faut trouver un contexte propre aux chansons, c'est pas évident. Et savoir les lier en plus. Et là, mais c'est juste. Ce qu'ils ont fait, c'est juste génial. C'est un petit show à l'américaine. T'as des tableaux qui sont immersifs. Et comme tu dis, oui, c'est pas tout gai, tout beau, tout rose, mais c'est contemporain. Mais par contre, c'est une vraie fiction qui a été créée.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment Résiste, c'est vraiment une réussite. Enfin, moi, j'ai adoré ce spectacle. C'est pareil, c'est un peu comme Starmania, Résiste. J'avais envie de le voir, de le revoir, de le revoir. Mais voilà, ça restait quand même un divertissement. T'as été voir une comédie musicale, quoi.
C'est ça.
Et voilà, ton cœur, il est rempli de joie. Enfin, t'es super content d'avoir vu ça, d'avoir entendu les chansons de Michel Berger. Le cast, il était super. Mais voilà, enfin, Starmania, c'est...
Et petite précision, Léa Delot, qui jouait le personnage principal, était la réincarnation de France Gall, faut dire ce qui est. Bon, après, le fait qu'elle ait les cheveux blonds... renforce l'impression, j'ai envie de dire. Et puis, c'était impeccable ce qu'elle faisait. J'ai envie aussi de souligner le travail de Gwendal Marimoutou, qui est un artiste juste remarquable. Il est très généreux et ça se voyait dans ce spectacle, clairement. Et je sais qu'il performe aussi avec le Roi Lion régulièrement. Quand je suis allé voir le Roi Lion, il n'était pas sur scène, c'était sa doublure, mais parce qu'il tourne aussi avec les comédies musicales. Mais par contre, je l'ai vu avec Résist, il est génial. Et je l'ai revu avec les comédies musicales, d'ailleurs, sur scène. Le mec, il a... c'est une pile électrique. Quand il est sur scène, c'est une pile. Il est généreux, c'est hallucinant.
Ouais, ouais, et puis il a vraiment une énergie. C'est un showman. Moi, je l'ai vu dans Saturday Night Fever. Et c'était vraiment l'animateur, quoi. Enfin, c'est lui qui tenait le show. Ouais, vraiment très bien. Très bien, Gwendal, ouais. C'est vrai.
Et en plus, il est très... Enfin, il est sympathique. Je l'ai croisé, bah pareil, comme Cécilia Cara, je l'ai croisé aux comédies musicales. Vraiment ouais. Adorable.
Ouais, ça se sent.
Si on t'organise une vie bien dirigée, tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Elle passe ses nuits sans dormir à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste.
Et rien à voir tout à l'heure, je pensais quand tu parlais du collège tout à l'heure, et quand j'ai préparé le podcast, je voulais te demander, parce que moi, quand j'ai raconté mon histoire avec les comédies musicales, je disais que j'ai mis beaucoup de temps à assumer cette passion et à en parler, quoi. Moi, c'est la première fois, du coup, que j'ai un garçon qui raconte sa passion pour les comédies musicales. Et est-ce que toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours assumé, cette passion pour les comédies musicales? Ou est-ce que tu as pu avoir des moqueries ou des choses parce que c'est quand même un genre qui est assez controversé, donc...
Alors non, paradoxalement, j'ai jamais eu une moquerie par rapport à ça. Il faut dire que j'ai eu un entourage et des gens autour de moi qui m'ont permis d'assumer ce goût pour les comédies musicales, déjà parce que dans ma famille on a fait du théâtre, on a été au contact des arts vivants et puis on écoute tous à peu près on a tous à peu près écouté des comédies musicales dans ma famille. J'ai une tante également qui fait du chant, donc c'est facile de ma cousine, donc c'est facile aussi d'avoir ces contacts là et puis des personnes que j'ai pu côtoyer de près, de loin, où on avait aussi des goûts en commun par rapport à ce genre-là. Donc ça n'a jamais été difficile pour moi d'assumer. En plus, je t'ai raconté l'histoire de ma camarade de collège du caté qui nous avait proposé. Ça veut dire qu'elle-même était attirée par la comédie musicale. Donc à partir de là, quand tu connais des gens autour de toi qui aiment ces genres-là, quand tu les côtoies, quand tu arrives à échanger avec eux sur ce genre-là, voire à aller avec eux, parfois, hein, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'assume.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Donc là-dessus, non, franchement, j'ai jamais eu le moindre complexe avec ça. D'ailleurs, globalement, mes goûts musicaux, ils sont assez basiques, j'allais dire. C'est de la variété française, la plupart du temps. Après, bon, bien sûr, j'écoute du Adele, du Michael Jackson... Mais par contre, après, la variété française, c'est un peu toute ma vie, quoi. Donc, ça peut aller de Jean-Jacques Goldman à Michel Berger à France Gall, en passant par Erza Mucoli ou Anisha Jo, la gagnante de la Star Academy. Voilà, donc c'est très éclectique. Je peux écouter aussi bien des artistes d'il y a 30-40 ans que des jeunes qui percent.
Ouais.
Et parfois, on me dit, mais... surtout dans mon entourage, un tel, tu l'as connu où? Il vient d'où? Ben, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Anisha, ben, elle a gagné la Star Academy. Ah, d'accord, bon. Bon, après, dans ma famille, quand je parle de certains artistes, ils commencent à force à connaître, ils ne posent plus la question de savoir d'où ils sortent. C'est vrai que parfois, c'est plus mon goût pour les jeunes artistes qui peut être amené à être discuté. Mais pas tant mon goût pour les comédies musicales.
D'accord, ok.
Mes goûts artistiques, de toute façon, c'est des goûts artistiques que j'ai construits grâce à ma personnalité, grâce à mon vécu, comme tout le monde. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne complexerai jamais. D'ailleurs, je n'ai pas de complexe à faire.
Trop bien. Bah écoute, ça fait déjà une heure qu'on, qu'on enregistre. J'ai encore quelques petites questions, si tu veux bien. Est-ce que tu as des comédies musicales que tu rêverais de voir? Alors oui, tu m'as déjà dit Le Roi Soleil, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres que tu rêverais de voir dans ta vie en mode ce serait un objectif?
Bah oui, le Roi Soleil, si le spectacle pouvait être remonté sur scène, c'est vrai que ce serait génial. Et sinon, je pense que là, comme j'ai déjà réservé ma place pour Notre-Dame de Paris, même si j'ai déjà vu un reboot il y a quelques années, j'aimerais bien quand même le voir, j'allais dire, en mode adulte, entre guillemets, donc dans une salle de spectacle sans être accompagné, j'ai réservé ma place, donc j'aurai une autre vision du spectacle. Et puis bon, j'aimerais retourner voir les 10 commandements aussi, parce que bon, c'est quitte à aller voir Notre-Dame de Paris, autant faire coup double. Mais sinon, un spectacle original que j'aimerais voir, comme ça, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de comment dire, de personnages qui sont assez iconiques. J'avoue qu'on a beaucoup parlé de 1789, Les Amants de la Bastille, mais on ne parle pas tant de Louis XVI que ça dans le spectacle. C'est surtout la fin de son règne qui est abordée, et donc toute la révolte autour. Je pense que Louis XVI, mine de rien, vu sa particularité dans l'histoire de France, il mériterait d'être un petit peu plus mis au devant de la scène.
D'accord, ok.
Après... il y a peut-être d'autres personnages comme ça que j'ai pas... Enfin, si, ça a déjà fait l'objet d'une comédie musicale, mais malheureusement, j'ai pas vu le spectacle. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une grosse production qui se monte autour d'Aladin. Un peu dans la même veine que La Belle et la Bête ou que Le Roi Lion, justement. J'aimerais bien qu'il y ait un truc qui se monte, enfin, qui soit porté au même niveau. Parce que je crois que la comédie musicale qui avait été faite n'a pas eu forcément la même résonance. Je sais pas si tu peux me confirmer, mais.
Bah, pour moi, il y en avait déjà eu une en France, et il me semble qu'il y en a une qui est jouée à l'étranger, je sais plus où, mais il me semble qu'il y a un Aladdin qui tourne toujours, ou en tout cas qui a eu des adaptations dernièrement.
Mais en tout cas, cette histoire est assez spéciale. C'est Les Mille et Une Nuits. C'est une histoire qui est très très particulière. Moi, quand je regarde le film, encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression de regarder un film comme un autre.
Ah ouais?
C'est une atmosphère assez particulière. C'est l'histoire d'un mec qui est solitaire, qui se retrouve aux prises avec les autorités et qui j'allais dire sur un malentendu, quelque part, se retrouve aux prises avec un être un peu particulier qui lui permet d'avoir une autre vie, clairement, et de trouver l'amour en plus, plus indirectement. C'est un itinéraire assez particulier. Ce film et cette histoire, plus exactement, m'a toujours fasciné.
Bah écoute, ouais, pourquoi pas, mais il me semble que. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que Alexis Loison avait joué Aladdin. Donc peut-être qu'il y avait eu, il y a une dizaine d'années, une adaptation en France, mais.
Possible.
Mais oui, mais peut-être que c'était un spectacle, effectivement, plutôt pour les enfants, j'imagine. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir une grosse prod,
Je
vraiment,
pense.
au moins familiale pour que ce soit, ouais, pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai.
Après, en matière de spectacle, sans forcément parler de comédie musicale, je vais aller voir la troupe de l'Héritage Goldman également. J'ai jamais eu le plaisir de voir Jean-Jacques Goldman de mes propres yeux sur scène, mais là, ce sera l'occasion d'aller voir un spectacle avec son univers revisité par des jeunes. Et puis, sinon, j'ai prévu aussi d'aller à Paris pour aller voir Marina Kaye au Trianon.
Bon bah c'est bien, t'as des. Et Starmania du coup, t'as pas envie d'y retourner?
C'est sûr que oui, j'ai très envie d'y retourner. Mais bon, pour l'instant, c'est voilà, on va voir. Alors là, rien à voir avec les comédies musicales, mais il y a un artiste que j'aime beaucoup, que j'adorerais aller voir sur scène, c'est Florent Pagny.
Ah ouais, je devais aller le voir pour la tournée des 60 ans, je crois.
Ce fichu cancer, on a décidé autrement.
Voilà, ça a été annulé. Ouais, c'est vraiment un artiste qu'on aimerait voir aussi. Florent Pagny, pareil, je sais pas pourquoi, c'était au même moment que quand je me suis replongée dans Starmania, je me suis totalement replongée dans toute la discographie de Florent Pagny, on n'écoutait que ça, que du
D'accord.
Florent Pagny ou du Starmania. C'est vrai que c'est un artiste que j'aimerais voir aussi en live, et pour le coup, je
Ah
pense que
bah.
effectivement, vocalement, ça doit t'intéresser, ouais.
Il en impose.
Ouais,
Il en
ouais.
impose en plus, bon, pour la petite anecdote, j'ai la même tessiture que lui, je suis baryton Martin. Raison de plus pour moi pour m'identifier à cet artiste. Et il s'avère que là, je sais pas si tu connais l'association des Spectaculars, ils ont rendu hommage à France Gall la saison dernière, dans toute la France. Et c'était Julie Zenati qui les accompagnait sur scène. Donc c'est un peu comme les 500 chœurs, tu vois, les 500 choristes, l'émission de France 3. C'est le même principe.
D'accord.
Et là, il y a donc un artiste en guest qui les accompagne. Donc ça dépend du thème, bien sûr. Et cette année, ça sera Florent Pagny. Donc je me suis inscrit.
Ah, génial.
Si tout se passe bien, normalement, je serai dans la troupe l'année prochaine.
Ah, ce serait
Voilà,
chouette.
voilà.
Excellent. Bon, bah ça, écoute, je te souhaite. J'espère que ça va se concrétiser. Ce serait trop bien.
Bah, en tout cas, j'ai pris mon adhésion déjà. Après, on verra. Normalement,
Ouais.
on verra.
Ouais, puis Florent Pagny, j'ai vu qu'il avait enregistré une émission et a priori il a refait un concert là, donc j'ai bon espoir pour qu'on puisse peut-être prochainement le revoir et qu'il refasse une tournée, ce serait de nouveau annoncé, j'imagine.
Ce serait cool. Franchement, si
Ouais.
s'il va en concert solo, des vrais concerts, franchement, j'y vais.
Ouais, c'est clair, là il faut en
Et toi
profiter.
aussi, je pense que tu vas y aller du coup.
Bah ouais, si jamais c'est réannoncé, faudrait que je regarde parce qu'il me semble bien que j'ai vu qu'il a fait un concert en plein air.
Oui.
Bah écoute, je regarderai ça. Bah écoute, merci beaucoup Julien
Avec
pour
plaisir.
ton temps et
Merci à
d'avoir
toi.
raconté ton histoire et d'être venu vers moi aussi. Ça
Avec plaisir.
c'est gentil parce que pour le moment je contacte c'est moi qui vais vers les gens, donc c'est aussi plaisant d'avoir des gens qui viennent à moi. Très gentil.
Mais en tout cas, bonne continuation pour tes podcasts, Camille. Je continuerai à les écouter, bien sûr, parce que c'est toujours très intéressant. Il y a un super contenu. Et puis en plus, j'aime bien l'atmosphère. Tu as une bonne voix qui apaise. En plus, c'est cool de t'écouter. On a l'impression d'avoir la petite conscience qui parle pendant qu'on est dans le métro ou pendant qu'on est dans...
Excellent.
C'est super sympa. Donc bravo, continue comme ça.
Bah, merci beaucoup, ça me touche.
Avec
c'est
plaisir.
Gentil. C'est vraiment gentil. Merci pour ton intérêt. Et puis pour tes retours aussi, à chaque fois tu me donnes tes retours et c'est vraiment ça que je cherchais. Donc merci beaucoup.
Avec plaisir, c'est normal, c'est sincère.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous avons fait un tour d'horizon des meilleures comédies musicales vues par Julien et c'est toujours un bonheur de parler de cette passion avec quelqu'un. N'hésitez pas à faire vos retours à Julien sous le post dédié sur Instagram La Joie de Camille. Merci toujours beaucoup pour votre écoute attentive et votre bienveillance. À très vite!